C'est bon? Vous m'entendez bien? Ça va? Ça résonne pas? Comme vous allez pouvoir le voir, il y a aussi, enfin, Charlie n'était pas au courant de la prédication, mais les pierres, il y a un rapport avec la prédication aussi. Sauf qu'on peut imaginer que les pierres étaient un peu moins grosses dans l'histoire de David et Goliath. Je ne sais pas s'il y a du monde qui s'est inscrit pour la garderie, mais normalement, vu que c'est David et Goliath, ça devrait être à peu près accessible aux enfants aussi. Même si, dans mon intro, j'ai prévu de dire que je ne comprends pas que l'histoire de David et Goliath soit séquestrée dans le rayon histoire pour enfants. Je ne comprends pas cela. Honnêtement, dans plusieurs camps GBU où j'ai été orateur, j'ai voulu proposer une série d'exposés bibliques sur le roi David, et ça fait déjà 3 fois qu'on me dit non. Parce qu'en fait, l'histoire du roi David, ça intéresse personne, car je pense que dans la tête de beaucoup, l'histoire du roi David, c'est pour les enfants. Je ne comprends pas qu'on pense que l'histoire du roi David soit pour les enfants. La deuxième partie, c'est sûr, elle n'est pas pour les enfants, mais même la première partie de l'histoire du roi David n'est pas pour les enfants. Même si, bien sûr, c'est accessible aux enfants. On va lire aujourd'hui le texte le plus connu de cette histoire entre David et Goliath, l'histoire de la vraie confrontation entre David et Goliath. On a déjà vu plusieurs semaines auparavant que David était le petit dernier d'une famille, que son métier c'était de garder les moutons, et que il y avait un peu loin de chez lui un champ de bataille où il n'y avait pas de bataille, un champ de bataille entre les Philistins et Israël. Et les Philistins ont proposé un défi à Israël. Ils ont envoyé un grand champion qui s'appelle Goliath, qui est très grand, qui est très fort, qui est très protégé. Et ils ont dit, envoyez-nous votre champion. Et celui qui gagnera dans ce combat de champions, eh bien, remportera la victoire. Et le peuple, eh bien, sera soumis à l'autre peuple, s'il perd. Normalement, le grand champion du côté d'Israël, c'est Saül, qui dépasse tout le monde d'une tête. Saül, c'est le Goliath en Israël. Mais Saül n'y va pas. Saül se défile. Et il n'y a pas de combat. David vient voir ses frères qui sont sur le champ de bataille, mais qui ne combattent pas. Et David, lui, eh bien, fait preuve, non pas de courage, mais de foi. Il dit à tout le monde, mais c'est pas normal, pourquoi est-ce qu'on va pas se battre? On est l'armée du Dieu vivant, on est l'armée du Dieu d'Israël. Normalement, on devrait gagner, donc il n'y a pas de problème, il faut y aller. Et donc, puisque personne ne veut y aller, David dit « je vais y aller ». Et Saül veut lui mettre un casque, une cuirasse, tout ça, mais ça ne va pas du tout à David. David, lui, il est leste, il est agile, et surtout, en fait, il ne pense pas que ça va être avec une armure qu'il va remporter la victoire. Et donc, il y va avec la force qu'il a. Il y va surtout en pensant que c'est Dieu qui va lui apporter la victoire. Et voici ce qu'on nous dit donc dans 1 Samuel 17 à partir du verset 40. David donc prit son bâton en main et choisit dans le torrent 5 cailloux bien lisses qu'il mit dans le sac de berger qui lui servait de besace, et sa fronde à la main, il s'avança vers le Philistin. Celui-ci, précédé de son porte-bouclier, s'avança vers David. Il l'examina, et lorsqu'il vit devant lui un jeune homme roux et de belle figure, il le regarda avec mépris. Et lui lança, « Est-ce que tu me prends pour un chien pour venir contre moi avec un bâton ?» Puis il le maudit par ses dieux. « Approche un peu, » ajouta-t-il, « pour que je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » À quoi David répondit, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, Et moi, je marche contre toi, au nom de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, le Dieu des bataillons d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui même, l'Éternel me donnera la victoire sur toi. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Et avant ce soir, je donnerai les cadavres des soldats philistins à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages de la terre. Alors, toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel délivre. Car l'issue de cette bataille dépend de lui et il vous livre en notre pouvoir. Aussitôt, le Philistin se remit à avancer en direction de David, qui, de son côté, se hâta de courir vers la ligne ennemie au devant du Philistin. David plongea la main dans son sac, en tira un caillou et le lança avec sa fronde. Il atteignit le Philistin en plein front. La pierre pénétra dans son crâne et il s'écroula, la face contre terre. Ainsi, sans épée, avec sa fronde et une pierre, David triompha du Philistin en le frappant mortellement. Alors, il se précipita sur son adversaire, saisit l'épée de celui-ci, la tira de son fourreau, acheva l'homme, puis il lui trancha la tête. Ils prirent la fuite. J'ai un mot qui il manque. Oh, bon, d'abord, c'est pas grave. J'ai un mot qui manque là aussi. Ils prirent la fuite. Les soldats d'Israël et de Juda s'élancèrent en poussant des cris de guerre et poursuivirent les Philistins jusqu'aux abords de la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les cadavres des ennemis jonchèrent la route de Shaaraïm jusqu'à Gath et Écron. Au retour de cette poursuite acharnée, les Israélites pillèrent le camp des Philistins. David prit la tête du Philistin et la fit porter à Jérusalem. Il déposa ses armes dans sa propre tente. Jusqu'ici, notre lecture de la parole de Dieu. Un petit rouquin, même pas soldat, qui arrive, tu peux mettre la diapo d'après, un petit rouquin, même pas soldat, qui arrive à vaincre un guerrier géant et expérimenté avec seulement une fronde et une pierre pour aboutir à la déroute totale de l'armée philistine. Étonnant, non. Résumé ainsi, la bataille entre David et Goliath, entre Israël et les Philistins, serait totalement réducteur. Pourtant, quand on utilise l'expression « c'est David contre Goliath », c'est souvent pour décrire un match de foot complètement déséquilibré entre le PSG et n'importe quelle autre équipe, pour décrire une lutte sociale entre des petites gens spoliés par une puissante multinationale, souvent dirigée par Bolloré. Peut-être pour décrire une sorte de miracle, par définition hautement improbable, mais pas tout à fait impossible, genre quand il reste 1% de chance que ça arrive, on dit « c'est David ». Contre Goliath. C'est souvent comme ça qu'on utilise cette expression. Mais quand on lit notre passage d'aujourd'hui, quand on lit le passage original, on comprend que l'essentiel ne se passe pas sur le champ de bataille. L'essentiel se passe ailleurs. Et c'est la prochaine diapo. Goliath commence par maudire David par ses dieux. Il maudit David par ses dieux. Verset 43. David lui répond en affirmant que l'Éternel lui donnera la victoire. Versets 45 et 46. Et il conclut, David, par une grande démonstration théologique sur la souveraineté de Dieu, sur le sort d'Israël, son peuple. Versets 46 et 47. Puis, dans les faits, David tranche la tête de Goliath conformément à ce qu'il avait prophétisé, ce qui provoque la panique des Philistins qui comprennent que leurs dieux, que leurs nombreux dieux, sont moins forts que l'Éternel. Les Israélites, eux, sont galvanisés par ce miracle et ils poursuivent ceux qui les terrorisaient quelques minutes plus tôt. Et on le voit bien, l'affirmation de David au verset 46 et 47, « Mon Dieu est plus fort que tes dieux et à la fin on va vous défoncer », c'est en version très courante que je vous la fais, eh bien cette affirmation prophétique de David est complètement vraie. Tout ce combat est une immense parabole destinée à démontrer aux Philistins et à Israël qui est mort de trouille que les enjeux terrestres dépendent totalement de la foi en Dieu. Voilà, parce qu'en fait, un rouquin plutôt beau gosse avec une fronde et un caillou, ça ne fait absolument rien contre un géant militaire de carrière expérimenté. C'est une question de foi, c'est une question de miracle. Tu peux mettre la diapo d'après. David n'est pas encore roi, mais David est déjà prophète. Et son message, très clair, est une véritable exhortation pour son peuple et les autres peuples de la terre. C'est ce qu'il dit au verset 46b. Toute la terre saura. Toute la terre saura. Donc il y a un message qui dépasse largement le champ de bataille. Et ce message, c'est « Il n'existe qu'un seul Dieu, celui d'Israël. Donc, pour être heureux et vaincre tous les dangers, il faut simplement se tourner vers lui. Il faut lui faire confiance. Le bonheur et la prospérité ne dépendent pas d'un roi grand et fort, d'une armée puissante avec des soldats suréquipés ou d'une conjoncture économique, d'une conjoncture géopolitique favorable. Non, ça ne dépend pas de tout ça. Si on écoute l'Éternel, si on veut lui être fidèle en faisant sa volonté, il n'y a rien à craindre. Une fronde et une pierre peuvent faire l'affaire pour vaincre un géant cuirassé. C'est de la pure foi. C'est de la pure foi. On n'est pas dans le rationnel. C'est une foi qui est fondée sur le genre de miracle qui a sorti un peuple d'esclaves du pays le plus puissant du monde, l'Égypte. David s'appuie sur le récit fondateur, sur le miracle fondateur du peuple d'Israël. Avec une série de 10 miracles, Dieu a sorti les Hébreux d'Égypte. Et donc, puisque Dieu est fidèle, puisque Dieu a pris soin d'eux, et il a même pris soin d'eux dans le désert, il a pris soin d'eux à plusieurs reprises, puisque Dieu a pris soin de son peuple, il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Et donc David s'appuie sur cette histoire pour continuer l'histoire et se dire, c'est bon, sur ce champ de bataille, c'est pas que Goliath qui est là, c'est le combat entre l'Éternel et tous les autres dieux. Ça, c'est pour l'Ancien Testament. Ça, c'est pour la période de David. Mais quand on lit l'Ancien Testament, il faut toujours se poser la question s'il n'y a pas Jésus qui se cache un petit peu dans l'Ancien Testament. Car il faut toujours lire l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau. Et dans le Nouveau, eh bien, on lit qu'au premier siècle de notre ère, un homme à l'aspect normal, même pas beau gosse, même pas rouquin, vient mettre le bazar dans la société juive de son époque. Cet homme est naturellement proche des faibles. Il s'oppose aux puissants. Il est puissant quand il enseigne et lorsqu'il s'oppose au mal, mais il ne se défend pas quand on vient l'arrêter. Il ne se défend pas et même il se laisse faire quand on le crucifie. Satan, le diable, a bien tenté de le faire plier en lui proposant le pouvoir, la gloire et les plaisirs, ces drogues dont le succès n'a jamais été démenti. Mais Jésus, puisque c'est de Jésus dont je parle, n'a jamais perdu de vue le royaume de son Père. Il n'a jamais perdu de vue la mission qu'il avait. Sa mort sur la croix était-elle la revanche de Goliath sur David ? Le mal, dans toute sa brutalité, avait-il enfin gagné face à la confiance en Dieu ? Il a fallu attendre 3 jours, 3 jours, pour que le nouveau David sorte du tombeau avec la tête de Satan dans les mains. Le serpent lui avait mordu le talon, mais Jésus lui a écrasé la tête. Jésus a délivré son peuple de la condamnation, de la seconde mort, de la mort éternelle. Cette mort n'a plus de pouvoir sur nous, parce que nous mettons notre foi en lui. Il a écrasé la tête du serpent, il a coupé la tête de Goliath, et nous sommes vainqueurs grâce à lui, comme Israël a été vainqueur par la victoire de David sur Goliath. C'est la bonne nouvelle. Mais ça ne s'arrête pas là, car dans le Nouveau Testament, il y a une suite. Paul, quand il écrit sa lettre aux chrétiens de l'église d'Éphèse, et en fait finalement de toute la Turquie actuelle, Paul les exhorte à relever les énormes défis de la foi en Jésus en s'appuyant sur leur nouvelle identité. Maintenant, les chrétiens sont tous des enfants adoptés par Dieu grâce à la victoire de Jésus sur le diable. Vous êtes tous enfants de Dieu. Oui, c'est difficile à vivre. C'est difficile de vivre en communion les uns avec les autres. Puisque vous êtes tous enfants de Dieu, mais n'empêche qu'à l'époque de Paul, il y avait des gens qui étaient chrétiens, mais qui étaient d'origine juive. Il y avait des gens qui étaient chrétiens, mais qui étaient d'origine païenne. Il y avait des gens qui venaient de n'importe où, de plein de contrées, de cultures différentes. Et tous ces gens, si différents, devaient constituer l'Église. Et ça, c'était très difficile à vivre, parce que se comprendre, c'est extrêmement difficile. Oui, c'est difficile de vivre en communion les uns avec les autres quand on vient de cultures si différentes. Oui, c'est difficile de changer ses habitudes, de changer son comportement, de changer son caractère. Oui, c'est extrêmement difficile. C'est même parfois douloureux de réorienter sa vie pour suivre Jésus, car nous chutons, nous sommes confrontés à notre péché et nous faisons face à l'incompréhension de nos proches. Être chrétien, ce n'est pas une sinécure. Être chrétien, ce n'est pas les vacances. Être chrétien, c'est un combat. Mais Paul fait le même rappel que David à ses contemporains. Pour vaincre notre péché et vivre une vie conforme à la volonté du Seigneur, nous n'avons pas à compter sur nos propres capacités ou sur des règles à suivre, même des bonnes règles à suivre. Nous avons simplement à compter sur la force que Dieu nous donne. Jésus a déjà remporté la victoire sur le mal et le Saint-Esprit applique cette victoire sur nos vies et sur tous nos maux. M-A-U-X. Si cette réalité est effective, si cette réalité est réelle, si cette réalité est vécue, nous sommes spirituellement inattaquables. Car nous avons revêtu une armure qui nous protège des assauts sataniques menaçant de nous faire chuter. Bien entendu, ça garantit absolument pas que nous n'allons plus faire d'erreurs. Mais en comprenant que notre réalité terrestre dépend d'enjeux spirituels, nous ne ferons pas l'erreur de nous tromper de combat. Et notre identité en Christ nous permettra finalement de vaincre. Nous ne nous trompons pas de combat. Alors, est-ce que vous êtes prêts à être des David ? Êtes-vous prêts à être des David ? Trop souvent, nous réagissons de manière très humaine. Devant par exemple, une personne saoulante, à l'église par exemple, même si ici ça n'existe pas. Mais devant une personne saoulante, on réagit souvent de manière très humaine, à l'église, dans notre famille, dans notre environnement de semaine. Il y a des personnes comme ça qui ont le don de nous irriter, à force. Et nous réagissons mal. Nous réagissons aussi souvent mal devant une situation inconfortable, une situation qui nous énerve, une situation que nous n'arrivons pas à gérer. Ou pire, devant un bouleversement qui met en l'air tous nos plans. Nous avions prévu de faire telle ou telle chose, et d'un seul coup, il y a un imprévu, et nous réagissons mal. Nous nous énervons, nous avons peur, nous cherchons à régler le problème le plus vite possible, avec nos muscles, ou avec notre grande intelligence, pour être enfin soulagés. Pourtant, nous n'avons pas à lutter contre une personne, contre un enchaînement d'événements ou un manque de chance. Nous avons à lutter contre nos mauvais sentiments, contre nos réactions destructrices, attisées par l'ennemi de nos âmes. Voilà notre vrai ennemi. Notre vrai ennemi n'est pas visible. Notre vrai ennemi, il est à l'intérieur de nous. Il s'appelle le péché. Et si nous laissions le Seigneur agir pour que les problèmes soient réglés de la bonne façon? Cela demande de laisser tomber les armes conventionnelles et de réagir d'une manière qui va glorifier Dieu et lui donner la place d'agir. Nous n'avons pas à lutter avec nos propres forces. Le Saint-Esprit veut lutter. Le Saint-Esprit veut nous aider à agir de la bonne manière comme Jésus a agi de la bonne manière. Sommes-nous prêts à être des David ? Sommes-nous prêts à comprendre quels sont les vrais enjeux ? L'histoire d'Israël, petit peuple de rien du tout, qui a réussi à faire de grandes choses. L'enseignement de Jésus, l'histoire de l'Église l'ont démontré. Les petits peuvent tenir tête aux puissants. Je vous rappelle qu'en deux siècles et demi, l'Église de Jésus-Christ a terrassé l'Empire romain. L'Église de Jésus-Christ, persécutée, composée de personnes qui allaient se faire bouffer par les lions, qui allaient se faire brûler sur les places publiques, en chantant. Cette Église que les Romains croyaient exterminée par la force, cette Église a fini par conquérir cet empire romain et elle est devenue tendance. C'est devenu une Église qui s'est répandue, et au bout d'un moment, un empereur s'est converti au christianisme. En deux siècles et demi, trois siècles, c'est ce qui s'est fait. Les petits peuvent terrasser les plus grands. Mais dans cette histoire de l'Église, je vous l'ai dit, cette Église a conquis l'Empire romain en acceptant d'être persécutée. Elle ne l'a pas fait avec des armes conventionnelles. On n'est pas avec des musulmans qui conquièrent des territoires par la force. plusieurs siècles plus tard, on est avec des chrétiens qui acceptent d'être exécutés pour leur foi. Les petits peuvent tenir tête aux puissants, alors même qu'ils sont désemparés, alors même qu'ils sont désarmés, parce qu'ils se confient en Dieu, parce qu'ils savent que Dieu est à l'œuvre. Et je fais le pont avec ce que disait Charlie. En intro, c'est dans le calme, la tranquillité, que sera notre force. Parce qu'en fait, nous avons un Dieu qui règne. Et même quand nous ne comprenons pas tout ce qui arrive autour de nous, même quand nous sommes assaillis par les événements, quand nous sommes assaillis par notre péché, par notre infidélité, même quand il y a tout ça, eh bien, lui, il gère la situation. Et à la fin, c'est lui qui gagne. Et à la fin, c'est nous qui gagnons avec lui. Alors ne nous trompons pas de combat, et je finis avec ce que Jésus a enseigné dans le début de l'évangile de Matthieu. Cherchez d'abord le règne de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses, et Jésus parle des besoins fondamentaux, des besoins physiologiques de l'être humain, toutes ces choses, vous sera donné en plus. La priorité, notre priorité, devrait pas être de nous soulager, de nous faire plaisir, d'être tranquille. Notre priorité doit être de servir le Seigneur, de rechercher son royaume. Et tout le reste nous sera donné en plus. Sommes-nous prêts à être des David ? Je vous invite à prier.